Et en compétition, on se lève très tôt, puisque les épreuves décollent dès le lever du jour. Hein, c'est le lever de soleil aéronautique. Hein. Donc on peut décoller quasiment en même temps que le soleil. Ah. Et donc là, on a des couleurs incroyables. Il fait frais, parfois le matin, mais par contre, la récompense, c'est le soleil qui se lève en face.
Mais c'est ça, c'est magnifique. Ah. Les paysages sont la récompense de... Pensez-y. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors, bien évidemment, je suis avec Jérôme, mais également un oiseau volant. Et oui, Mickaël Merle. Salut Mickaël.
Salut.
Salut Mickaël.
Salut à tous les deux.
En plus, t'as un nom prédestiné.
C'est ça, exactement.
Exactement. Alors, pourquoi oiseau volant? Quelle est ta discipline?
Alors, moi, je suis pilote du LM et en particulier pilote sur cette machine qui est sur ma gauche, qui s'appelle un paramoteur. Donc, c'est la première classe des ULM.
Voilà. Et quand on dit première classe, parce qu'effectivement, les ULM, il me semble qu'il y a 6 classes.
C'est ça, exactement. Il y a des pendulaires, il y a des multi-axes, c'est une sorte de petit avion, des autogires, donc ça ressemble à un hélicoptère, mais avec une deuxième hélice derrière. Et on a l'hélicoptère, donc en classe 6. Et on a également les aérostats, donc ça ressemble à une sorte de dirigeable gonflé à l'hélium, voilà, avec une hélice propulseur.
Voilà. Et donc là, on est ici au club du LN d'Orléans-Mardier.
C'est ça.
Exactement. Voilà. Alors bon,
ouais.
On dirait pas comme ça, mais malgré tout, c'est effectivement des pistes de décollage que l'on a juste derrière nous. Donc effectivement, parce que toi, le paramoteur décolle sur de l'herbe.
Exactement.
Voilà, on pas sur du béton.
Voilà.
C'est pour
on
ça.
On a une piste ULM qui est en herbe, qui mesure 300 mètres de long, qui nous permet d'accueillir toutes les classes d'ULM justement. Donc c'est pour ça qu'elle a une certaine dimension avec une certaine largeur. C'est homologué par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et donc, on peut accueillir toutes les classes du LM.
Donc ici, à Mardier, il y a les 6 classes qui peuvent décoller.
Exactement.
D'accord.
Les 6 classes peuvent atterrir, décoller.
D'accord.
Et en l'occurrence, ici, on est essentiellement des paramotoristes. Et donc, on décolle soit à pied avec une machine comme ça, soit en roulant, en biplace ou en monoplace.
Et donc, la météo n'est pas excellente aujourd'hui. Et
alors
donc,
oui, vous pouvez le voir un petit peu, il y a un peu de vent.
Il n'y aura donc pas de décollage pour toi aujourd'hui, Mickaël.
Non, négatif.
Malheureusement.
Malheureusement, ouais. On aime voler et on est un peu frustré parfois quand on a des météos qui changent comme ça au dernier moment.
D'ailleurs, forcément, c'est donc un sport qui est dépendant de la météo, donc ça peut être un peu frustrant
parfois.
Effectivement,
c'est un facteur.
Ouais, absolument. La météo, que ce soit le vent, la pluie, ça, ce sont des facteurs qui nous contraignent à rester au sol. Donc, aller jusqu'à 20 km/h de vent, on arrive à décoller. Au-delà, ça s'adresse à des pilotes un petit peu plus expérimentés. Et au-delà de 30 km/h, là, c'est même plus la peine d'essayer de décoller, ça serait l'accident. Donc, reste au sol.
Donc, c'est-à-dire qu'aucune classe du LM peut décoller, en tout cas, lorsqu'on a plus de 30.
Alors, uniquement le paramoteur.
Uniquement
les autres classes ont moins de contraintes, puisque nous, on a une particularité, c'est qu'on utilise une voile de type parapente.
Voilà, vous la voyez un petit peu à côté, effectivement. Il y a la voile qui est là.
Donc, on n'a pas une voile fixe, on a vraiment une voile souple. Et cette voile, elle est très sensible aux aléas climatiques, à la météo, au vent notamment. Et donc, décoller quand il y a plus de 30 km/h de vent, ça ne serait pas possible.
Alors, ce que justement, pour expliquer un petit peu, c'est que la voile, donc là, pour l'instant, vous la voyez, effectivement, elle est au sol. Vous voyez effectivement qu'il y a le paramoteur qui est là, donc avec sa pale, son hélice, etc. Mais justement, comment on décolle? Parce que c'est pareil, c'est vraiment... Enfin, on court.
Voilà, exactement. Alors là, on est sur une machine particulière. On la représentera après. On peut décoller à pied en paramoteur. C'est-à-dire qu'on va porter cette machine-là sur le dos, comme un sac à dos. En fait, devant, on a une sorte de harnais, comme un sac à dos. Et donc, on porte la machine. Ça pèse moins de 30 kg. Et la voile est attachée de chaque côté de la machine. Et lorsqu'on court... En fait, le fait de courir et de mettre un petit peu d'accélérateur, l'hélice va se mettre à tourner, générer un petit peu de vent. Ça va faire gonfler notre voile au-dessus de notre tête. Et une fois qu'elle est au-dessus de notre tête, on met plein gaz et on décolle. C'est parti. Et on peut décoller comme ça sur quelques mètres. Hein. Donc, c'est très rapide.
Oui, parce qu'au final, on n'a pas besoin de 300 mètres de...
Ah non, non, non,
on
pas
a besoin
tout.
De largement moins de ça.
Mais oui, là, alors, avec des conditions météo où il y a du vent, on peut décoller en 2-3 mètres. Et quand il n'y a pas du tout de vent, on peut mettre jusqu'à 15-20 mètres pour décoller, 30 mètres maximum, et on est parti dans les airs. On pourrait presque décoller du jardin.
Mais c'est pas mal ça.
C'est pas mal.
Mais ce n'est pas homologué, donc on ne peut pas.
Mickaël, la question un petit peu rituelle, c'est donc comment tu as découvert sa discipline, donc l'ULM, toi?
Alors,
je crois en 2016.
Parce que sur le tard en plus.
En 2016.
Ouais, en 2015, on m'a offert un baptême de l'air, et je ne savais pas du tout ce qu'on m'offrait, c'était pour mes 40 ans.
D'accord.
Voilà. Et donc, on m'a offert un baptême. Je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout, pourtant je suis du secteur, mais je ne savais même pas qu'il y avait une base ULM. Et quand j'arrive, je suis accueilli par une jeune femme qui se présente et me dit « je vais t'emmener en baptême aujourd'hui, on va aller dans les airs avec une machine comme celle que vous avez à côté de moi, mais biplace, donc un peu plus grosse, et on emmène deux personnes. » Je dis « ouais, c'est génial !» Donc j'étais un petit peu enthousiaste et en même temps un peu inquiet. Je me dis « ça vole !»
Parce que ça peut faire peur quand
voilà,
même.
Voilà, ça peut faire peur. Et on est parti ensemble, on a décollé, c'était extraordinaire. Moi, j'ai vécu mes premières sensations aéronautiques de cette manière-là. Et quand on a reposé, c'était Marie Mathéos, qui est championne du monde de la
on
discipline.
On va en parler après de ça. Ouais.
Oui.
Voilà. Et elle me dit, si tu veux, tu peux commencer dès demain. Je dis, mais en fait, moi, ça m'intéresse, ça. Et donc j'ai trouvé ça génial. Je me suis inscrit dès le lendemain. Et je crois que je prenais mon premier cours la semaine d'après parce que j'avais des disponibilités. Et j'ai commencé par faire du gonflage de voile comme on le ferait en parapente pour apprendre à piloter la voile sans le moteur avec une sellette de parapente.
Tu avais déjà un peu le goût pour les airs avant ou pas ?
Alors en fait, ça remonte il y a très très longtemps en arrière quand j'étais ado, un jeune ado d'ailleurs. J'habitais à la campagne et pas très loin d'ici. Et un jour, en me baladant avec mon frère le long d'une rivière, d'un seul coup, je vois deux avions de chasse passer, mais très bas. Et nous, on est des gosses, donc on regarde, on fait coucou à l'avion, et le pilote tourne la tête. Et quand il a vu qu'on était là, il a refait un tour, il est repassé plus bas, et là, il a tourné la tête, il nous a salué, et il est reparti. Et là, ça a été, je pense, le déclic cette passion aéronautique. Mais j'étais gamin, et à l'époque, passer un brevet de pilote avion, c'est pas donné. J'ai vraiment attendu d'avoir une stabilité professionnelle et financière pour pouvoir me lancer dans le domaine. Et puis, le paramoteur, ça a été une super occasion, en fait, parce que c'est le plus petit des ULM. C'est très accessible. Voilà, donc en termes de prix, en termes de prix à l'heure de vol, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher aujourd'hui pour voler.
Et même pour justement, parce que bon, il y a forcément toute une formation, bien évidemment, pour devenir pilote. Et ensuite, on passe son brevet de pilotage pour pouvoir justement, parce que bien évidemment, tout le monde ne peut pas se dire tiens, je vais aller m'asseoir et je vais aller décoller. Pas du tout. Non, en tout cas, vous êtes des pilotes. Et voilà, donc il y a toute une formation. Et effectivement, c'est pas si excessif que ça, en fait, d'arriver, de faire la formation et d'avoir le brevet.
Absolument, ouais. Alors en fait, on compare souvent le paramoteur à la moto. En termes de prix, on est sensiblement pareil. Le brevet de pilote, ça coûte environ 1600, 1700 euros, en fonction des heures de vol que l'on va faire. Il y a une partie théorique qui est commune à toutes les classes du LM. Hein, on passe à un brevet de pilote aéronautique. Et on a une partie pratique sur la machine dans laquelle on va voler. Hein, donc si je vole en paramoteur, je vais apprendre le paramoteur en pratique. Si je vole en avion ou en autogire, par exemple, ou en hélicoptère, je vais apprendre sur l'autogire et l'hélicoptère.
Donc voilà. On fait son choix un peu quand même.
On fait son choix un
avant.
Peu au départ.
Okay.
Voilà. Et après, une fois qu'on est parti là-dessus, c'est parti. Hein. On apprend très rapidement à voler. Hein.
Et donc toi, ton brevet de pilote, tu l'as passé en combien de temps ?
Alors mon brevet de pilote, j'ai mis 6 mois au total. Pour être lâché en autonomie totale. J'ai fait mon baptême en juin. La semaine suivante, j'attaquais les cours. Et à peine 6 mois après, j'étais breveté pilote paramoteur.
Waouh, c'est rapide.
Au début 2016.
C'est rapide hein,
quand même. Ouais, c'est très rapide.
Donc
c'est kiffant.
Alors ça, oui. Ça, clairement, en tout cas, nous, on l'a bien compris aussi avant, ce qui nous a expliqué vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Que c'est pas, parce qu'en plus, maintenant, effectivement, tu fais aussi de la compétition.
Oui.
Donc pareil, hein, le parcours a été très rapide. Parce que quand on dit que tu as commencé, effectivement, à dire que tu as eu ton brevet en 2016, enfin brevet de pilote bien évidemment, pas le brevet d'école, en 2016, t'es rentré en compétition très rapidement, les championnats de France aussi, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, championnat du monde.
C'est chouette, ouais.
Ça va vite.
Ouais, quand on est passionné,
et des médailles,
je pense qu'on apprend
très vite. Et des médailles, c'est surtout ça, parce que bien évidemment, c'est qu'en plus on repart avec des médailles.
Ouais, ouais, c'est ça qui est sympa. Ouais, ouais. Et c'est pas des médailles en chocolat, ça fait plaisir.
Tu l'as croqué du coup.
La transition entre donc ces débuts et donc la compétition, comme Sandra l'a dit, comment tu l'as faite aussi rapidement ?
Alors en fait, moi je suis un peu sportif dans mon métier. Déjà, je suis sapeur-pompier.
Tout à fait.
Et donc, je suis passionné du sport depuis de nombreuses années. Hein. Je fais du sport depuis que je suis gamin. J'ai fait 10 ans de judo, j'ai fait un petit peu de course à pied, j'ai touché au tennis, j'ai été dirigeant de club. Donc, j'ai touché à pas mal de disciplines sportives.
D'accord.
Et dans mon métier, j'accompagne également les sapeurs-pompiers dans l'activité physique. Je m'occupe également de la réathlétisation des agents qui sont blessés. Donc, je leur propose des séances de sport avec des choses bien spécifiques à la pathologie dans laquelle ils sont. Donc, le sport, ça fait vraiment partie de mon quotidien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et maintenant je me suis même lancé dans la préparation mentale des sportifs, entre autres.
D'accord.
Voilà. Donc c'est partie intégrante effectivement de ta vie, le sport.
Ouais.
Et en fait tous les aspects du sport.
Ouais. Et j'ai grandi avec le paramoteur énormément. J'ai appris énormément de choses. J'avais jamais goûté au haut niveau. Aujourd'hui, je goûte au haut niveau. C'est vraiment un environnement particulier, exigeant, mais passionnant parce que les pilotes sont des passionnés et sont des techniciens. On ne s'en rend pas compte, c'est des gens qui travaillent des fois dans des entreprises du quotidien.
Tout à fait.
Et ça, c'est extraordinaire d'avoir des sportifs de haut niveau qui travaillent aujourd'hui pour faire vivre la France.
Alors, tu as prononcé le mot haut niveau, donc la FFPULM, donc Fédération Française de
Planeurs Légers Ultramotorisés.
Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup.
Et donc, c'est vrai qu'elle n'est pas simple, celle-ci.
A été créée en 1980, je crois.
Dans les années 80, exactement.
Ouais. Donc, il semble que 81 au journal officiel.
D'accord. Et donc, maintenant, est agréé par le ministère des Sports depuis peu.
Oui.
Donc tu es donc sportif de haut niveau.
Enfin, sur les listes ministérielles, on vous en parle souvent effectivement, que quand on est athlète, on rentre sur les listes ministérielles, c'est-à-dire qu'on on peut être après appelé effectivement en équipe de France.
Exactement.
On peut en tout cas concourir sous les couleurs de la France.
Ouais.
Et c'est effectivement ton cas.
Ouais, c'est ça. Depuis 2022, donc en fait depuis décembre 2021, le slalom paramoteur est reconnu haut niveau par l'Agence nationale du sport, donc le ministère des Sports. Et donc on peut dire qu'on a deux entités bicéphales à la tête de la fédération, hein, le ministère de la transition écologique et le ministère des Sports. Et donc du coup on a deux entités qui nous gèrent, entre guillemets, nous sportifs. Et puisqu'on utilise l'espace aérien, c'est le ministère des Transports et de la Transition écologique. Et pour la partie sportive, pour le ministère des Sports. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc depuis le 1er janvier 2022, il y a une liste qui existe. Et j'ai eu la chance de l'intégrer assez rapidement parce que j'avais réussi à performer un petit peu avant. Et on est plusieurs pilotes, dont dans mon club, on a quand même on a le club le plus titré au monde, hein, avec près de 6 médailles en individuel pour Alexandre Matteos, par exemple, 6 médailles de champion du monde, une dizaine de médailles de champion de France. Et pareil pour Marie, et j'ai intégré le groupe après, donc on a plein de médailles.
Alors belle transition, parce que j'ai lu que donc, Marie et Alexandre Matteos, qui sont mari et femme, parfois sont adversaires dans les airs. C'est assez original.
Ouais, c'est très original. Et d'ailleurs, l'année dernière, elle a fait un coup d'éclat, puisqu'elle a battu son mari, qui était multiple champion de France et champion du monde.
C'est pas bien ça.
Au championnat de France. Et donc, c'est la première femme pilote championne de France.
Mixte,
toutes catégories confondues. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et c'était amplement mérité parce que ça faisait des années qu'ils se battaient tous les deux sur le podium, entre la première place, la deuxième place, la troisième place. Des fois, ça monte, ça redescend. C'était un film à rebondissement.
Elle a mis un point final, du coup.
Ouais, elle a mis un point final. Donc, c'était génial.
On est parti sur une bonne note.
Alex, on kiffe.
C'est bon, ça, c'est parfait.
Donc, c'est vraiment eux une famille de pilotes du LM.
Ouais. Ils sont nés là-dedans. Marie, en plus, est pilote de montgolfière. Donc, elle cumule aussi d'autres activités. Donc, l'aéronautique, c'est vraiment un domaine qu'elle maîtrise aussi. Alexandre est né dans le parapente avec son papa, dans le paramoteur. Donc ils ont grandi dans le milieu, donc c'est génial. Et puis moi, j'ai grandi avec eux et j'ai appris énormément parce que c'est des gens qui sont très humbles et qui transmettent vraiment toutes leurs connaissances aux gens qui les entourent. Donc moi, j'ai appris grâce à eux et je les remercie encore une fois.
Et c'est les meilleurs instructeurs au final, parce qu'effectivement, plusieurs fois champions.
On ne peut pas rêver mieux. Et au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas tout ça. Donc, j'ai découvert petit à petit qu'ils étaient champions du monde. Et du coup, j'ai fait un stage de perfectionnement. C'est ce qui m'a permis très rapidement d'intégrer l'équipe de France et de grandir.
On parlait auparavant de la fédération. Combien de clubs en France du LM à peu près?
Alors, le nombre de clubs, un petit peu de mal à le dire.
Il y a
16 000 licenciés, 16 400 licenciés en France.
D'accord.
Ce qui reste du coup une fédération moyenne petite.
Alors ici, on est à l'heure actuelle, on est 60 à avoir repris notre cotisation, puisque les adhérents peuvent reprendre au fil de l'eau et au fil de l'année, en fonction des conditions météo, la cotisation. Mais en règle générale, on a un club qui tourne entre 60 et 100 pilotes. Donc il y a des allers-retours, il y a des gens qui partent de la région, qui reviennent, donc c'est assez variable. Et on forme en général avec l'école d'Alexandre et Marie à peu près entre 10 et 20 pilotes par an.
Ah,
donc c'est quand même pas mal.
C'est
quand même pas mal.
Et donc j'ai lu que l'âge minimal était de 15 ans pour piloter un ULM.
Ouais, alors Alexandre par exemple fait figure d'exception, enfin il y en a d'autres évidemment. Mais
il a 10 ans.
Presque. En fait, il l'a eu à 15 ans, il a eu le brevet de pilote avant d'avoir même le permis voiture ou moto.
Bah oui, mais c'est énorme ça. Ouais, ouais. De dire, je peux aller, entre guillemets, piloter dans les airs alors que je peux toujours pas piloter, enfin conduire ça. Une voiture du coup.
Ou que je suis encore au collège ou au lycée, quoi.
Et justement, comme il y a donc cette.
Et ça, mes copains, ils l'ont pas par contre.
Comme il y a ce frein, entre guillemets, de la limite d'âge, comment est-ce qu'on peut sensibiliser des plus jeunes à l'ULM avant cet âge-là pour leur.
Alors, justement, on est en train de mener des actions dans ce sens dans le secteur, oui. Notamment avec le collège qui est sur le territoire dans lequel on est, pour sensibiliser les jeunes au sport aéronautique, à l'aéronautique en règle générale. Oui. Parce qu'il n'y a pas que le sport, hein, évidemment. L'idée, c'est aussi de faire découvrir ce milieu qui, aujourd'hui, est très respectueux dans plein de domaines, aussi bien sur le plan technologique, hein, parce que si on prend, par exemple, cette hélice, elle est fabriquée en France, et c'est une pilote qui est dirigeante de la société et qui est leader mondial des hélices carbone. Donc c'est quand même une belle preuve aussi qu'on est capable, nous, avec l'intelligence en France, de fabriquer des belles choses.
Totalement.
Et c'est une femme dirigeante, alors on salue encore une fois de plus une femme.
Bravo.
Performante. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire découvrir l'aéronautique, le milieu de l'aéronautique qui est accessible. Parce que moi, quand j'étais gamin, un peu frustré quand même de me dire, bah, il faut que j'attende d'avoir un peu d'argent pour me former. Alors oui, ça coûte quand même un petit peu d'argent, mais ça reste accessible. Et donc, c'est ça le message qu'on veut faire passer aux jeunes. C'est cette liberté, l'accessibilité à des sports aéronautiques, aux loisirs aéronautiques. C'est accessible à tous et dès le plus jeune âge. Donc on va les sensibiliser là au collège, donc c'est des jeunes qui ont entre 11 et 14 ans et l'idée c'est de leur faire découvrir ce que c'est, de leur faire découvrir que proche de chez eux il y a un club, il y a des clubs en France, il y en a énormément, hein, je crois que c'est plus de 500 clubs en France. Et c'est accessible, les jeunes peuvent venir, ils peuvent venir voir, ils ne sont pas obligés de participer, mais ils peuvent regarder. Et en plus, ils peuvent apprendre. Donc on apprend de plein de choses. Et en plus, on est le club le plus titré au monde. Donc à côté de chez eux, ils ne le savent peut-être pas, il y a des champions et il y a des gens qui sont extraordinaires.
Ah. Exactement. Et justement aussi, c'est parce que bah, pareil, ça reste un sport, donc du coup, parce que maintenant, on peut l'appeler quand même sport. C'est un sport qui n'est pas vraiment médiatisé non plus. Et peut-être aussi beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce que c'est, très sincèrement, ce qu'est le paramoteur, ce qu'est l'ULM, ou en tout cas dans ces classes-là de l'ULM. Donc c'est aussi un bon moyen de venir voir un petit peu ce qu'il y a, ce qui se passe autour de chez nous aussi. Ouais. Et là, effectivement, ils ont beaucoup de chance. On est plutôt bien dotés chez nous.
Ouais, bah, puis moi, je vous remercie en plus d'être venu parce que du coup, vous me donnez cette occasion de prendre le micro et d'expliquer aussi. Et j'espère qu'il y aura des élus même qui peuvent regarder ce podcast parce que les élus eux-mêmes sont des gens à convaincre, de leur dire qu'il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le basket, il n'y a pas que des sports olympiques non mécanisés qui existent et qui peuvent être titrés. Donc
totalement.
Là, en l'occurrence, nous, on est un sport local, mais on ramène aussi des titres nationaux,
bah,
on représente la France à l'étranger et en plus on est plutôt bien placé donc c'est chouette.
Oui.
Sandra évoquait avant les médailles, donc il y a eu 2022 au Brésil je crois, donc vice-champion du monde toi.
Oui c'est
médaille
ça
d'argent.
Donc
individuel.
En individuel vice-champion du monde et champion du monde des nations. Donc c'était très sympa parce que c'était ma première compétition internationale
en plus.
Donc elle est marquante.
Ouais.
On a été dans un endroit qui était fabuleux puisqu'on était au Brésil à côté de Rio de Janeiro. On a volé dans un cadre un petit peu particulier. C'était très chouette.
C'est pas comme ici par exemple.
C'était
c'est
pas
différent.
Comme aujourd'hui. Voilà, c'est différent. Mais on a eu l'occasion d'aller au Qatar, on a eu l'occasion d'aller en Thaïlande, on a eu l'occasion d'aller là. On va en 2024 partir en Angleterre. Donc là, 2024, c'est un programme qui commence à être chargé. Là, on s'approche des échéances. C'est pour ça qu'on aimerait que la météo s'améliore, qu'on puisse s'entraîner.
Mais vous partez en Angleterre hein, quand même. Hein. C'est pas là où.
Voilà, c'est pas le Brésil
non
plus.
Ça aide pas non plus, quoi.
Ça va pas aider. Mais allez, on va croiser les doigts. Éol, si tu nous entends, voilà, merci, calme-toi. Et voilà, non, là on a le championnat de France à Levroux en région Centre-Val-de-Loire dans quelques semaines maintenant, ça va aller vite, c'est début mai. Ensuite on part à l'Open d'Angleterre en juin pour préparer le championnat du monde. Donc un Open d'Angleterre, c'est un Open d'endurance, donc là c'est un format de compétition un peu particulier aussi, où l'idée c'est de voler sur des créneaux de 5 à 6 heures, donc il va falloir beaucoup de vitamines. pour la machine et pour le bonhomme ou la pilote, parce qu'on a aussi des pilotes françaises qui sont engagées là, donc ça c'est sympa.
Tiens, et belle transition, où tu mets entre guillemets tes ravitaillements?
Alors le carburant là, ça va être le réservoir qui est là.
Et pour toi?
Ah, mon ravitaillement. Ouais. Alors mon ravitaillement en vol, en fait, je vais prendre un bon petit déjeuner.
Ouais.
Et puis je vais essayer de voler comme ça le plus longtemps possible. Ouais. Parce qu'en vol, bah, c'est toujours délicat de s'alimenter.
Ouais.
On peut éventuellement emmener une petite bouteille d'eau, vraiment quelque chose pour s'hydrater en vol. Et puis après, bah, c'est pareil hein, pour les besoins physiologiques. En fait, on utilise ce qu'on utilise en milieu hospitalier. Hein. On se raccorde avec une sonde, avec une petite poche sur la cuisse, fixée sur la cuisse. Et si on a des besoins, bah, ça va se passer comme ça.
D'accord. Voilà.
Oh. Voilà. Ah, je pensais pas. On fait 5, pas dans l'air. 5, 6...
Alors, on a des pilotes qui sont, on a des pilotes qui sont très doués. Hein. Alors, par contre,
faut pas être en dessous, quoi.
Voilà, je plains ceux qui vont penser qu'il pleut localement. Voilà.
C'est tropical.
C'est tropical, voilà.
Et donc, par rapport au Brésil, est-ce qu'il y a une anecdote ou un souvenir qui t'a marqué, on va dire, ou...
Bah, je pense que les oiseaux, les rapaces par exemple, c'est quelque chose qui nous a marqué. On a des rapaces qui viennent droit sur nous et au dernier moment, ils changent de direction. Donc c'est assez marquant. Après, c'est le paysage aussi. On n'est pas habitué à rencontrer un paysage montagneux et très forestier, très dense. On est un petit peu équatorial. Il fait très chaud, les masses d'air sont très importantes et en même temps, il fait très beau. Donc c'est vraiment un dépaysement total quand on est en compétition à l'étranger et c'est assez rigolo parce qu'il n'y a pas que le Brésil mais on a d'autres pays, on a été dans le sud de l'Espagne préparer les championnats du monde de slalom en avril l'année dernière, il faisait 40 degrés, il faisait canicule et ça c'est impressionnant parce que du coup ça, on a vraiment un autre décor, on est au-dessus d'un lac qui est bleu, turquoise, on a tout l'environnement qui est un peu grillé par cette canicule, donc on est un petit peu dans un climat un peu désertique, là il n'y a pas du tout d'humidité, au contraire c'est très sec, donc voilà, quand on voyage en compétition, c'est l'avantage de la compétition, c'est de voyager aussi, ça c'est sympa, et donc du coup on a vraiment des paysages variés, une population variée, on rencontre aussi une autre culture, donc ça c'est sympa aussi de pouvoir échanger avec les gens locaux, de notre passion aéronautique mais aussi de comment eux ils vivent au bien quotidien sûr. Voilà. Oui. Donc ça c'est chouette,
ça c'est top. Et faut pas oublier quand même que ces paysages là vous les voyez pas du même œil que nous quand même parce que c'est vous les voyez dans les airs,
absolument,
et voilà, je pense que tout le monde rêve d'un seul coup de pouvoir voir en fait tout ce qui se passe vraiment d'en haut. Et justement je voulais juste faire, quand on est en compétition même en amateur, quelle hauteur, enfin à quelle hauteur on peut aller, jusqu'où on peut aller, en tout cas qu'est-ce que le paramoteur nous permet, on peut être bas, on peut être haut?
Oui, absolument. Alors en compétition, il y a des règles hein, aéronautiques évidemment à respecter. Hein. Il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller hein, dans le cadre de la compétition. Proche d'un aéroport par exemple, évidemment, même en compétition, on ne pourra pas y aller. Donc tout ça, c'est défini par le règlement. Par contre, en termes de vol, en compétition, il existe plein d'épreuves. Alors si je parle du slalom, c'est très simple. Hein, ça se passe au-dessus d'un lac, au-dessus de l'eau. On a des pylônes qui sont gonflés, qui font entre 8 et 10, 12 mètres de haut. Et on slalome un peu comme on voit les coupes Red Bull Air Race. Voilà, on fait la même chose.
C'est excellent.
Voilà, on vole à des vitesses qui vont entre 100 et 120 km/h à la surface de l'eau. Et on doit mémoriser une vingtaine de parcours pour se préparer à toutes les épreuves qui vont s'enchaîner. D'accord. Les unes derrière les autres.
Et donc celle-là, c'est
beaucoup de préparation.
Celle-là, c'est l'épreuve qui a rendu le
LM paramoteur
agréé par le ministère des Sports.
Exactement.
D'accord.
Bah,
donc
oui,
ça, c'est
même.
Le slalom. Oui. Et après le classique, puisque tu l'évoquais, il y a différentes hauteurs de vol. Donc effectivement, la hauteur mini, ça va être 150 mètres. Hein, la plupart des pays, c'est comme ça. Et puis après, les hauteurs de vol, c'est très variable en fonction des types d'épreuves. Si on part sur une épreuve de navigation classique, on va voler entre 300 et 700 mètres d'altitude. On va pas chercher à gagner la hauteur, c'est pas intéressant. On va essayer d'avoir plutôt des couches laminaires, c'est-à-dire des couches où il n'y a pas de turbulence en termes de vent, en termes de variation du vent. Et puis après, on peut avoir des épreuves d'économie pure. Ce qu'on appelle économie pure, c'est avec le petit bidon qui est sur le côté. Là, on le voit, là, il fait 1,5 litre. Et là, on part avec une quantité de carburant qui est pesée sur une balance. On part, par exemple, avec 1,5 kg de carburant. Et on remplit notre bidon. Et on doit tenir le plus longtemps possible en l'air avec la quantité de carburant qui est dedans. Donc là, on peut monter très haut. On va aller chercher le plus haut possible. Donc on peut monter à 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude si on le souhaite, si le nuage nous permet d'aller jusque là-haut. Voilà, on est un peu comme le parapente.
Vous imaginez quand même quand même à 2000 mètres d'altitude. Il n'y a pas de carrosserie autour. On est comme ça, en fait.
Ouais, mais c'est fun.
Mais
une sensation de liberté totale.
Voilà,
en fait.
Et ça, je pense que déjà, c'est le plus beau... Le plus beau ressenti, en tout cas, de ce sport. Mais en tout cas, voilà, il y a effectivement, on peut être très bas, parce que 150 mètres, c'est plutôt bas, on va dire. Enfin, on les voit quand même de près, c'est-à-dire s'ils arrivent sur nous.
Ouais.
Et on peut effectivement aller très haut, on peut aller même au-dessus des nuages, effectivement. Enfin, il y a quand même une diversité dans les sensations que l'on peut avoir, en tout cas avec le paramoteur.
Ouais, absolument. On peut voler en loisir, survoler... un ravin, survoler une colline, une montagne, survoler une plaine. Là, en ce moment, c'est le colza, il est en fleurs, ça donne des couleurs, vu du ciel, c'est magnifique. On a la végétation qui est en train de s'éveiller avec le printemps.
Ouais.
L'été, c'est les champs qui sont fauchés avec des odeurs particulières, parce qu'on a aussi toutes ces odeurs qui viennent à nous. C'est les températures, on a des masses d'air qui changent. On peut avoir parfois quelques nuages bas et c'est assez rigolo de tourner un peu autour ou de passer au-dessus. On peut voler des fois à côté d'une montgolfière, parce qu'il y a des montgolfières aussi le matin ou le soir. Donc ça, c'est très très sympa, c'est vraiment très varié, les paysages sont variés. Franchement, il faut venir à l'ULM. Hein.
Ah, mais, et en plus, alors là, je vais parler aussi pour beaucoup, nous les femmes, ce qu'on apprécie beaucoup, les levers et les couchers de soleil, à mon avis, ça va être magique aussi de pouvoir les voir d'une autre manière aussi. Enfin, c'est très beau, dès qu'on peut être dans la nature, c'est...
Il y a quelque chose de particulier. Hein, et même en compétition, on se lève très tôt. Puisque les épreuves décollent dès le lever du jour, c'est le lever de soleil aéronautique. Hein. Donc on peut décoller quasiment en même temps que le soleil. Oh. Et donc là, on a des couleurs incroyables. Il fait frais, parfois le matin, mais par contre, la récompense, c'est le soleil qui se lève en face.
Mais c'est ça, c'est magnifique. Ouais. Les paysages sont la récompense de... Pensez-y. Hein.
Il y a également un aspect énorme de préparation des compétitions. Tu nous parlais de ça auparavant, avec vraiment des calculs, entre guillemets, savants.
Oui, va vous mettre des vidéos.
Des connaissances météorologiques, topographiques, c'est impressionnant, franchement.
Exactement. Parce que, donc, du coup, effectivement, c'est un sport aujourd'hui, quand on n'est pas que en loisir. Les compétitions engagent énormément de choses, que forcément, il y a des règles. Il y a, tu vas l'expliquer mieux que nous, mais il peut y avoir des points de passage. Il faut calculer. Des fois, c'est autant à la seconde près. Donc, il faut être bon dans ces calculs avec ce qu'on vous donne. Explique-nous ça parce que et bien évidemment vous avez en même temps alors pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, peut-être venez voir également sur notre vidéo sur YouTube, parce que justement on a filmé vraiment tout ça, parce qu'il a une carte également quand il est en l'air, il a énormément de choses, et explique-nous tout
c'est seulement monter dedans et
c'est pas juste voler.
Oui, c'est simple en fait.
C'est pas si simple, non.
Oui,
pour lui c'est simple.
Mais quand
est-ce que tu veux que je la tienne?
Ouais, je veux bien. En fait, une fois qu'on est installé dans notre machine, ça c'est la dernière chose qu'on va poser sur nous. En fait, c'est poser vraiment sur nos cuisses comme ça. Mmh.
Oui, il voilà. Y a une espèce.
Et
y a
c'est
un
relié
petit...
par un voilà. Petit mousqueton qui est derrière. Donc ouais, il y a plein d'indications. Hein, vous voyez, sur ma planche, en fait, on y met. Il y a les anti-sèches. Il y a des mots qui permettent de se ressourcer. Il y a des mots, c'est ainsi que l'on s'élève vers les étoiles, victoire, etc. Enfin, c'est vrai, c'est des fois des petits messages qui nous sont laissés sur les planches avant de partir.
Des petits leitmotivs.
Voilà, c'est ça. Et puis des checklists aussi pour partir, pour rien oublier. Donc ça, c'est attaché sur nous, entre les jambes, sur la machine devant, à l'endroit où on est assis. Et on a une carte de la zone dans laquelle on va voler. Et dessus, sur cette carte, on va avoir un certain nombre d'indications, hein, avec des zones interdites, des zones de vol, et des fois des circuits à respecter. Alors là, si on prend cette carte-là, par exemple, c'est une régulation vitesse, c'est-à-dire qu'on décolle de là où on est, par exemple sur la base ULM, et on doit aller relier des points qui sont ici de différentes couleurs. Alors vous verrez peut-être sur les petites vidéos qui vont être incrustées dans celle-ci, que du coup, pour relier ces points, il faut calculer des temps de passage à la seconde près. Donc une fois qu'on a décollé, on prend des disques de vitesse, où on va avoir calculé la vitesse du vent au moment où on va faire l'épreuve. Donc il faut aller sur des sites météo, regarder la vitesse du vent à telle altitude, la force du vent, et puis le reporter sur la carte de manière à déterminer à quelle vitesse je vais voler entre ma zone de décollage et le premier point. Et ensuite, entre le premier point et le deuxième point, et entre le deuxième et le troisième, et ainsi de suite jusqu'au bout, sachant que effectivement, comme ça dessine un carré, on ne va pas voler avec le vent toujours au même endroit.
Et non,
soit il va être dans le dos... Soit il va être de face, soit il va être de côté. Et donc, tous ces paramètres-là, on les prend en compte et on calcule nos vitesses de vol. Et ça, on déclare ce temps à la seconde près, juste avant de décoller. Parce qu'une fois qu'on est parti, on a juste notre chronomètre et notre carte. On n'a pas d'instrument de bord, on n'a rien. Et donc, il faut se fier à tous ces calculs que l'on a fait avant de partir. Donc, on a un petit temps de préparation, ce qu'on appelle une zone de quarantaine. On prépare tout ça. Et puis, une fois que ça, c'est prêt, et ben là, c'est parti. Go, en avant.
Voilà. Et comme tu nous disais, effectivement, c'est que le fait d'avoir mis ces temps, enfin, en tout cas, que toi, tu sais en combien de temps, par exemple, tu vas rejoindre ce premier point, tu vas te mettre également des points à toi. Dans ta tête pour te dire ok, donc là par exemple si je passe, imaginons hein, je vous donne un exemple, au-dessus par exemple d'une forêt, il faut que celle-ci elle était marquée peut-être à 2 minutes, donc si par exemple je suis en retard ou je suis en avance, je peux accélérer ou décélérer au niveau de ma voile pour exactement. Justement arriver à mon premier point, par exemple si elle a été considérée en 7 minutes pour arriver à 7 minutes 00, bien
voilà,
évidemment,
exactement.
Sur le point. Donc il y a aussi tout ce jeu, et bien évidemment ça se fait, cette map elle se tourne, parce que comme elle est accrochée, pour bien évidemment, vous imaginez bien, c'est comme une boussole, il faut être...
toujours même, orienté vers le nord ou dans la direction dans laquelle on va.
Pour éviter de se perdre ou faire de machine arrière en tout cas. Et voilà, donc en fait ça par exemple, c'est aussi pour ça que le paramoteur est un réel sport, c'est pas... Enfin, quand on voit toute la préparation qu'il peut y en avoir en amont, parce que l'épreuve va nécessiter ça... C'est un travail énorme. Et dans les vidéos, vous allez pouvoir voir, il a des réglettes, il a les petites épines, il a son disque de... C'est colossal, en tout cas, ce qui est mis en place pour justement pouvoir réaliser ça.
Il faut être bon en géométrie.
Il faut être bon
sinon,
en géométrie.
Ça s'apprend vite, parce que je prends l'exemple d'un pilote du club là, qui s'est lancé l'année dernière. Il venait juste d'être breveté et il va intégrer l'équipe de France.
Ah ouais.
Donc ça va très vite, en fait, si on est vraiment passionné et qu'on a compris un peu les mécanismes. Et l'avantage aussi de l'ULM, c'est qu'on n'est pas avare de renseignements, y compris pour les jeunes. En fait, les jeunes sont accompagnés, une sorte de tutorat en fait. Un jeune pilote qui arrive, moi j'ai été tutoré par Alexandre et Marie. Ils m'ont appris très rapidement à utiliser les aiguilles, à utiliser des petites astuces, des petites choses qui vont nous servir pour préparer nos épreuves. Et du coup, on apprend assez rapidement, donc ça c'est chouette. Et
ça
donc,
c'est bien, quand il y a un partage, il y a une progression dans tous les gars.
Et c'est un sport où il y a beaucoup d'entraide, de partage.
Mais ce qui est bien aussi, ce qu'il faut quand même rappeler, la sécurité aussi, bien évidemment, oui. Il est accroché, hein, bien évidemment, vous imaginez bien, il n'est pas juste assis dans son siège, mais voilà, on sait que de toute façon, dès qu'il y a un moteur, que ce soit sur route ou dans les airs, voilà, la sécurité est importante, tout comme effectivement, tout à l'heure, pareil, on vous aura mis les vidéos ou autre, quand tu as monté ton paramoteur, parce que bien évidemment, tout est démontable, tout est remontable, voilà, il est en tout cas garant aussi de sa propre sécurité,
oui.
Et tu es garant de tes choix. Stratégique en tout cas sur, sur les épreuves, donc c'est vraiment c'est une belle découverte en tout cas tout à l'heure, il nous a fait mal à la tête avec ses calculs, vous imaginez pas, mais
tu parlais également auparavant de préparation mentale, donc tu as un diplôme ou...
Alors moi j'ai eu la chance en 2021 de faire une formation de coaching sur Paris.
D'accord.
Avec un maître expert en hypnose et puis une docteure en neurosciences. Et j'ai fait une formation de coaching qui m'a permis aussi de me connaître un peu mieux. Parce qu'au final, des fois, les choses de la vie font qu'on est obligé d'avancer. Et donc, j'ai fait cette formation. Ça a duré une petite année avec différents stages. Et puis, du coup, derrière, l'idée, c'était aussi d'apporter mon aide. J'aime bien être tourné vers les autres. Le développement personnel, ça a des choses qui me parlent. D'ailleurs, j'attaque bientôt un cursus d'hypnothérapeute. Et donc, je suis vraiment intéressé par ce plaisir, ce confort, le fait que, par exemple, pour le Qatar, je n'ai pas pu être sélectionné, mais à distance, j'ai envoyé des audios à des copains qui étaient pilotes en équipe de France. Et je sais que peut-être ça les a aidés à franchir certaines épreuves. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire de la préparation mentale. Parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est aussi beaucoup de contraintes. Et c'est une charge mentale par moment. Et cette charge mentale, il faut la préparer. Il faut aider les pilotes à se construire dans un projet et avoir des objectifs, construire des objectifs et aller jusqu'au bout pour obtenir la victoire, une médaille, une récompense, Ça peut être simplement le fait de participer, la récompense. Parce qu'être sélectionné en équipe de France, c'est déjà un beau cadeau.
C'est pas rien.
C'est déjà, oui, c'est pas rien.
Et donc, c'est des paris, c'est des choix que l'on fait. Et donc, tout ça, ça se prépare. Parce que des fois, on est un peu surpris par la dimension que ça prend. Surtout quand on monte sur un podium, derrière, il y a quand même des médailles, il y a quand même des fois des félicitations. Il faut être prêt pour tout ça. Et je trouve que.
Ça, recevoir le succès.
Voilà, savoir recevoir le succès et savoir le redonner derrière.
Aussi.
C'est-à-dire remercier aussi les fédérations qui nous aident hein, pour aller dans cette discipline. Mais voilà, donc ouais, je fais du coaching. Alors, je fais du coaching en entreprise, mais je le fais aussi pour quelques pilotes. Lorsqu'ils en ont besoin, bah, voilà, je les aide aussi à aller au bout de leur projet, de leur démarche, aller jusqu'à la victoire.
Et ça t'aide également toi, bien évidemment, lors, ouais. Lors des compétitions, parce que bien évidemment... Il faut appréhender tout ce qui va se passer, il faut penser à tout, etc. Il faut être aussi dans des bonnes conditions pour pouvoir justement s'élancer.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais si, moi je trouve qu'on s'élance.
On s'élance.
Pour s'élancer et justement bah, pouvoir vivre son épreuve comme il le faut et en tout cas en bonnes conditions pour aussi pouvoir en profiter au maximum quand on est en haut.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est de profiter du moment présent, du moment où on est en compétition. Essayer d'avoir des choses, des petits tips qui font que ça devient des automatismes. Du coup, on a moins de charge mentale parce que ça se fait de manière automatique. Donc, c'est l'entraînement. Ça passe par l'entraînement, évidemment. Ça passe, ouais, ça vole autour. Hein.
Oui.
Hein,
je t'aurais même demandé s'il y avait pas un de tes collègues qui était. ça fait pas autant de bruit.
Voilà. Donc, ouais, ça permet vraiment d'être serein lorsqu'on arrive en compétition, de préparer, de visualiser mentalement aussi les épreuves. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut préparer mentalement. C'est intéressant.
Et justement, quelles sont les prochaines échéances pardon, pour toi et pour les Français en ULM en général?
Donc là, on a le championnat de France au mois de mai, l'Open d'Angleterre au mois de juin, et puis le championnat du monde classique d'endurance en Angleterre, donc au même endroit, au mois d'août.
Et ça, donc, tu espères le faire, celui-là ou...
Alors, pour aller au championnat du monde, il faut être sélectionné,
bien sûr.
Évidemment. Et donc, ça va tenir compte des résultats du championnat de France. Donc là, il va falloir...
Il y a une préparation.
T'es en préparation,
voilà,
du coup.
C'est ça.
Là, t'es en préparation.
C'est ça.
D'accord, ok. Pour terminer, j'allais te demander, même si tu as déjà fait depuis quelques minutes, mais comment tu pourrais donner envie aux gens de venir vers ce sport, donc ton sport, l'ULM, en quelques mots.
Trois mots pour décrire
alors,
le...
Alors, trois mots, c'est un, c'est le plaisir. Parce qu'il faut venir parce que ça nous fait plaisir. Ça, c'est très important. Le deuxième, c'est... j'ai envie de dire que c'est une belle machine. C'est le côté esthétique.
Ah oui, il y a un peu de ça.
Le côté fun, je trouve.
D'accord.
Je trouve que c'est fun de voler en paramoteur parce que ça tient dans la bagnole. Tu peux te barrer n'importe où en France. Il y a plein de bases ULM. Et si tu veux découvrir une région, bah, tu as ta machine dans le camion ou dans la voiture ou dans l'armoire comme moi.
C'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour découvrir quand même.
Et ça, c'est sympa. Hein. Ça permet aussi bien de randonner à pied dans une région que d'aller en vol.
Il y a vraiment une relation entre ta machine et toi. On sent vraiment qu'il y a une connexion. C'est marrant.
J'ai presque envie de la toucher. Tu vois. Je suis amoureux de ma machine. Tu
un
vois.
Peu, ouais. Ouais.
C'est un peu comme une seconde femme, on pourrait presque dire. Oh, allez, je ne veux pas dire ça.
Elle ne va peut-être pas être contente.
Non, elle ne va pas être contente. Et donc, voilà, plaisir, le côté fun de la machine.
Ouais.
Et puis le côté technique, je trouve, parce que c'est fun, mais en même temps, ça peut être technique. Bon, voilà, j'aime bien le côté technique parce que je fais de la compète, parce qu'il y a un petit peu de technicité. Donc, bah, ça s'adresse à tout le monde, en fait.
J'aurais rajouté un quatrième, la liberté.
La liberté, ouais.
Parce que...
L'ULM, c'est la liberté, de toute
c'est
façon.
C'est ça.
Voilà. Justement, une petite précision, tu as un casque donc, qui est là-bas.
Oui.
Ah
et
oui.
Et donc, tu as également donc, des écouteurs dedans.
Ouais.
Et tu peux mettre donc, de la musique
oui.
En volant.
Est-ce que tu peux... Je vais tenir ton micro. Est-ce que tu peux nous montrer ton... Alors, un vrai casque de pilote.
Ouais, alors sur mon casque, alors celui-ci, je l'ai fait fabriquer exprès par un Italien qui travaille très très bien. Donc il est personnalisé, il y a mon nom dessus, il y a mes partenaires, quelques sponsors. Et il est tout en carbone. Et dessus, j'ai un système Bluetooth qui me permet de relier mon téléphone ou un autre objet qui diffuse du son. Et du coup, je peux voler avec de la musique. Donc,
je peux vous dire, c'est la boîte de nuit quand il est en l'air. Hein. Il nous a fait essayer tout à l'heure.
Donc, il y a un petit peu une playlist de dire, liberté. Quoi. Voilà,
ouais, c'est ouais, ça. Ouais, donc, on pourrait très bien imaginer mettre
d'accord.
La musique qu'on kiffe en même temps qu'on vole.
Pas mal.
Et en même temps, recevoir des appels parce que du coup,
ah oui.
C'est performant.
T'es où là
parler,
ouais, est-ce que
vole.
Tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît?
J'y vais, je me pose à côté de la boulangerie et je repars.
Pas de problème. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment aussi le côté qu'on disait la liberté tout à l'heure. C'est la condition où on est autre part. Ouais. C'est-à-dire que même là, le fait effectivement d'avoir avec le casque, on est coupé du monde, parce que bien évidemment, on protège aussi les oreilles et tout, mais je pense qu'en fait, d'un seul coup, il y a d'autres sens qui se développent quand on est en haut. Autant comme tu disais tout à l'heure, des odeurs peut-être que nous on n'a pas quand on est à les pieds sur terre, ou bah, les couleurs, la vue, il y a beaucoup de choses sensorielles en fait quand on est
oui, on est dans la troisième dimension, hein, dès qu'on n'est plus sur le sol on est dans la troisième dimension, donc forcément bah, tous les pilotes connaissent ces sensations là hein, d'être dans les airs. La liberté du paramoteur, c'est vraiment de ne pas avoir d'habitacle autour de soi, d'être en contact avec l'air, avec les éléments. Donc ça, c'est sympa aussi. Et puis, c'est aussi un mode de vol raisonné parce que les constructeurs font énormément d'efforts pour construire des machines performantes, mais qui consomment quasiment pas de carburant, donc moins de pollution. Donc, avec des quantités embarquées de carburant ou de liquides divers et variés, vraiment minimalistes et écologiques. Et donc, des pots d'échappement aussi, parce qu'on parle souvent du bruit. C'est vrai qu'on a des machines qui volent, qui font du bruit, mais il faut savoir que 80% du bruit, c'est quasiment l'hélice qui le génère,
oui.
Parce qu'elle est en contact avec l'air, elle déforme l'air. Et donc, on a des machines vraiment qui font de moins en moins de bruit, qui sont de plus en plus performantes, qui consomment peu de carburant.
Alors justement, moi, la dire, consommation, parce qu'on va faire une petite comparaison avec les voitures, hein, parce que vous allez voir que votre voiture, ce qu'elle consomme par rapport à ce que ça consomme, hein, par rapport
voilà,
à
ouais.
On est sur...
Bah, alors, avec une machine standard, on est sur une moyenne de 4 litres à l'heure.
Voilà.
Voilà. Et mais... quand on passe en mode économie de carburant, sur des épreuves économiques, on peut descendre à 2 litres de carburant à l'heure.
Voilà.
Donc, on diminue de moitié. Voilà. Donc, c'est génial.
Bah, donc, du coup, c'est là où effectivement, ça reste quand même aussi un sport qui est convenable pour l'environnement, c'est-à-dire qui respecte aussi, il n'y a pas de trop forte émission. Bien évidemment, il faut du carburant, vous imaginez bien qu'ils ils vont pas mais battre des bras.
On évolue dans ce domaine, il y a aujourd'hui des compétitions, alors peut-être dans le futur, mais qui s'ouvriront à la motorisation électrique.
Mmh.
On a des moteurs électriques, hein, les paramoteurs électriques, ça existe, hein, donc on est en train de le développer. Donc ça avance sur le plan technologique, il y a même des avions électriques aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, on y va tout doucement. Alors après,
et d'ailleurs, il me semble qu'il y en a pas si loin.
Eh bien,
à l'autre base, à Saint-Denis.
Oui, à Saint-Denis d'Hôtel, ouais, certainement.
Premiers, ouais.
Et nous, on a des paramoteurs électriques également ici au club. Voilà, donc
voilà.
Voilà, on essaye de voler avec d'autres façons. C'est d'autres façons de voler avec une autre technologie. Voilà, tout ça, ça se marie et ça nous permet d'avancer.
Mais en tout cas, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits aussi de ce côté-là. Et c'est important de les souligner aussi parce que c'est-à-dire que c'est un sport qui pourra continuer dans le temps, en tout cas, tout en préservant l'environnement. Et justement, qui plus est, quand on est dans les airs et qu'on a cette joie de voir ce paysage, ce serait quand même dommage de l'esquinter. Quoi.
Ouais, exactement. Il faut préserver notre planète, ça c'est important.
Exactement.
En tout cas, on encourage vivement les gens intéressés à contacter Mickaël et le club donc, d'Orléans Mardier. S'ils sont,
exactement. Et faites des baptêmes de l'air.
Voilà.
Essayez, venez voir juste pour... donc bien évidemment, quand il ne fera pas le temps que nous, on a là aujourd'hui. Mais cependant, voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez venir, c'est accessible et c'est génial en tout cas.
Ouais.
Puis même, c'est un très beau cadeau aussi à offrir. Et puis, si c'est comme Mickaël... Le lendemain, il prend des cours. Hein,
et après, équipe de France.
Et après, équipe de France, championnat du monde, vous voyez, ça peut aller très, très vite. Papa, peut-être que je t'offrirai ça.
Mickaël, merci infiniment pour cette
Merci à vous d'avoir fait le déplacement.
Merci beaucoup, oui. Merci à toi, merci à ton paramoteur d'être avec nous également.
Ton meilleur ami.
J'ai bien compris que c'était une personne intégrante, en tout cas, à côté. Mais en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir, effectivement, ce sport.
Merci.
On l'a vu de plus près, on a aussi mieux compris. C'est vrai que du coup, nous, on n'était pas forcément confronté aussi à ce sport et vous allez aussi l'être donc du coup par toutes ces vidéos qu'on vous aura mis dans le podcast. Merci encore de nous écouter, merci également de nous regarder sur YouTube. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire. Dites-nous aussi si vous avez peut-être déjà pratiqué une des six classes du LM, si vous avez peut-être déjà fait un baptême de l'air ou si vous avez déjà été dans les airs, en fait. Dites-nous, on sera ravis de le savoir. Merci encore, Mickaël.
Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.
Salut.
Ciao, ciao.